sur Fréquence Diagonale. Eh bien, aujourd'hui, nous allons en Suisse. Je rencontre un joueur d'échecs suisse, c'est Pascal Gollet. Bonjour Pascal.
Bonjour Stéphane.
Alors, on va faire une émission avec toi sur, sur ton actualité, puisque tu viens de sortir l'an dernier hein, un petit livre tout à fait important, tout à fait important, tout à fait crucial, je dirais même, pour l'histoire du jeu d'échecs, puisque tu as sorti Les 100 fins de partie de Philippe Stama, modernisé par Pascal Gollet. Voilà, Philippe Stama, on va parler donc de Philippe Stama dans cette édition. Alors, c'est une réédition d'un livre ancien, hein, qui avait été édité en quelle année d'ailleurs la première fois?
Alors, la première édition, elle est de 1737.
Voilà, 1737. Donc voilà, on comprend que c'est quand même quelque chose d'important. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses originales dans ce livre, notamment la notation algébrique, notamment des liens forts avec Philidor aussi. Mais avant, on va parler de toi pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux, Pascal. Alors, tu es joueur d'échecs et tu es en Suisse. Alors voilà, tu as un classement Elo, tu joues depuis longtemps, tu es dans quel club?
Oui, alors je suis Pascal Gollet, j'ai 45 ans. Je joue aux échecs depuis environ l'âge de 15 ans. Puis j'ai joué beaucoup quand j'étais jeune, ensuite j'ai fait une longue pause, je suis revenu aux échecs. Puis j'ai refait une seconde pause, j'ai tourné dans la Suisse romande dans plusieurs clubs. J'ai commencé en Valais, donc c'est un des cantons suisses, dans le club de Martigny. Il y a d'ailleurs un Open en été qui est assez connu. Je suis parti ensuite du côté vers Genève, j'étais du côté d'Annemasse aussi, donc en France. Puis maintenant je suis dans une région qui s'appelle la Broye, dans une ville qui s'appelle Yverdon, les Bains. C'est dans le canton de Vaud.
Oui.
Et le club dans lequel je joue, c'est le club de la ville d'à côté qui s'appelle Payerne. Un club qui est assez dynamique. C'est ce qui m'a incité d'ailleurs à revenir aux échecs il y a environ 2 ans. Voilà. Et puis autrement, j'ai un classement Elo qui tourne autour de 1950, 2000 points.
D'accord. Donc c'est déjà un niveau tout à fait respectable. Hein. Alors qu'est-ce qui t'a pris de vouloir écrire un livre sur Stama? C'était quoi ta démarche?
Alors, ma démarche, déjà, c'est de... Il y a plusieurs facteurs. D'abord, j'ai vu qu'il y avait tout un mouvement de redécouverte de l'histoire du jeu d'échecs dont tu fais partie, puisque j'étais inspiré en particulier par le fait que tu aies réédité l'analyse de Philidor et le Rue Lepez.
Oui.
Mais également le conte avec ces deux tomes impressionnants sur le Café de la Régence.
Oui, bien sûr, oui.
Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, je me suis intéressé, je trouvais intéressant ce mouvement de mise au goût du jour de l'histoire. Et puis, un autre fait aussi, la facilité due à l'informatique dans l'imprimerie, qui fait que c'est très facile maintenant de s'auto-éditer, beaucoup plus facile qu'il y a quelques années.
Mm-hmm.
Alors, ces différents faits font que pour maintenant, n'importe qui a envie d'écrire quelque chose peut le faire. C'est extraordinaire.
Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, la facilité technique, bien sûr, permet beaucoup plus de possibilités aujourd'hui qu'il y a encore 15 ans, bien entendu.
Il fallait surtout une mise de fond, et maintenant plus du tout. Quoi. C'est imprimé à la demande, comme ça, c'est impressionnant.
Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, tu t'es décidé. Alors pourquoi Stama? Alors pourquoi? Parce que, à la limite.
Alors Stama, ouais. Je cherchais, disons, un auteur connu. Mm-hmm. À la fois, je cherchais une œuvre où il y avait donc un aspect historique. Et puis un aspect aussi ludique important, l'inconvénient de certains ouvrages antiques, enfin des anciens, c'est que c'est souvent des débuts de partie avec peu de commentaires. Bon, alors c'est pas, voilà, il y a des débuts de partie, des coups qui se suivent, mais voilà, mais ça ne trouvais pas très intéressant. T'as dit que l'intérêt avec Stama, c'est que c'est des positions,
oui.
Comme faites-vous la main, donc c'est très ludique aussi. Oui. On peut vraiment chercher des solutions et c'est plus esthétique, donc il y a ce côté ludique et en même temps il y a ce côté historique, parce que c'est quand même un ouvrage qui a marqué l'histoire du jeu d'échecs,
oui.
S'inscrit dans une continuité, comme on va le voir. Et puis voilà, et puis c'est mon premier essai, je voulais aussi un ouvrage qui n'était pas trop imposant. Donc voilà les différentes raisons qui ont fait que j'ai choisi Stama.
Oui, alors en termes de taille, on peut dire bon, qu'il fait à peu près, il fait 129 pages, hein, vous voyez, donc c'est un livre qu'on peut lire assez facilement. Hein. Alors effectivement, c'est une collection de petits problèmes, avec aussi une première partie, on va en parler bien sûr, avec une préface, hein, avec une préface intéressante aussi.
Oui, j'essayais aussi de sortir un livre bon marché pour que ça soit que je suis assez attentif au fait que le prix ne soit pas un obstacle.
Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc alors sur Stama, alors bon, les auditeurs connaissent pas forcément qui était Philippe Stama. Donc est-ce que tu peux nous décrire un peu l'histoire de ce grand joueur?
Alors, ce joueur Stama, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur arabe, qui natif d'Alep, comme il l'écrit d'ailleurs sur le frontispice de son ouvrage. Et il est né, on ne sait pas précisément, mais apparemment ça serait 1705,
Oui.
serait décédé en 1755. Alors donc il est natif donc d'Arabie, et puis donc il est joueur d'échecs là-bas, et puis il fait une tournée en Europe, et en particulier il arrive au club de Londres, se fait connaître là. Et puis il vient un peu le protéger d'un lord anglais pour lequel il devient traducteur de l'arabe en anglais et en français.
Oui.
Et puis il fait connaître, justement, il fait connaître la manière de jouer les échecs en Arabie, en Europe, disons.
D'accord.
Et puis voilà, il fait une tournée et puis il se fait donc connaître d'abord à Londres. Il publie. Il commence à publier ses problèmes, commence à obtenir une certaine notoriété. Et puis, à un moment donné, d'ailleurs, prouve qu'il devient une sorte de référence, prouvant qu'il va justement jouer contre Philidor à un moment donné.
Oui, alors on va y venir à ça, c'est un point important. Mais avant, tu parlais du fait qu'il venait donc en Europe, à Londres en particulier, pour faire connaître la façon de jouer en Arabie. Alors déjà, est-ce que les règles étaient les mêmes entre son pays d'origine, la Syrie, donc il était syrien, Stama le Syrien. Est-ce que les règles du jeu étaient les mêmes ou est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce que tu sais ça?
Alors, il y avait certaines variations
Ouais.
sur les règles, mais aussi sur ce qui est intéressant, ce qu'il en parle dans sa préface, sur le comportement des joueurs. Apparemment, d'après ce qu'il dit, les joueurs jouaient de manière assez en groupe. Ils avaient des consultants, un peu, qui jouaient de manière en équipe. Apparemment, d'après ce qu'il dit, c'était courant de commenter les parties assez en direct. Donc c'était pas aussi, le jeu n'était pas silencieux, ce que je veux dire, d'après ce qu'il dit.
Ah oui, d'accord. Donc il jouait plus ou moins en équipe quasiment et un
C'est ça,
cas.
c'est ce qu'il dit dans sa préface, là.
Ouais, d'accord. Et oui.
Voilà, mais autrement, il y a certaines variations sur les règles que je ne connais pas très précisément.
Oui.
J'ai juste expliqué dans le livre par rapport aux pattes. Au pâtre, quelle était la valeur du pâtre par rapport au résultat? Ça variait, mais c'est pas propre à la Syrie. On reviendra peut-être par après, je sais pas.
D'accord, oui, après, ben, on parlera après du livre en détail, hein, on va dans la deuxième partie. Alors, continuons sur l'histoire. Donc, tu disais, donc il vient à Londres, donc il fait connaître la façon de jouer en Arabie. Donc, il vient aussi, donc comme tu nous le dis, il va devenir traducteur anglais-arabe pour des officiels anglais, et tout en continuant son
Et puis
activité.
donc à Londres, il se développe, le jeu d'échecs se développe dans le café Slope Turf, Coffee Woods, qui est à peu près le pendant du café de la Régence à Paris, en fait.
Ouais.
Donc j'essaye de trouver des joueurs qui jouaient dans ce café. Alors il y en a un qui est connu, qui s'appelle Joseph Bertin,
Oui.
qui a écrit un ouvrage aussi en 1735, dans lequel on trouve certaines positions du Stama, on en trouve 15, je crois, mais de manière anonyme. On ne dit pas qu'elles sont attribuées à Stama, ça c'est
Oui.
intéressant.
Il a
Et puis,
oublié
par exemple,
de.
un autre joueur qui était connu à cette époque en Angleterre, c'était Alexander Cunningham,
Oui.
qui a laissé en particulier son nom à une variante du Gambiroi, je crois. Hein.
Oui, alors tu dis, alors ça c'est très très bien ce que tu nous dis là, enfin c'est très bien. Disons que, alors moi ça me parle tout de suite, puisque que ce soit Joseph Bertin ou Henry Cunningham, sont cités par Philidor en fait dans son livre, c'est-à-dire que dans les variantes du Gambit du Roi de ces deux joueurs sont inscrites, nommées, hein, elles sont nommées par Philidor. Voilà, donc
D'accord.
on les
Alors,
retrouve.
ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait vraiment une circulation de l'information entre tous ces joueurs.
Oui, Oui, bah oui, apparemment, oui, ça faisait boule de neige.
Oui.
D'accord, donc c'est on retrouve donc c'est on retrouve un lien, donc forcément ces joueurs se retrouvent cités dans d'autres ouvrages. Alors, il va donc à un moment donné, donc il va être amené à faire ce match face à Philidor. Alors comment ça se passe ça? Parce que c'est quelle date exactement où il va jouer Philidor? Et Philidor doit être très jeune à ce moment-là, non?
Alors, en effet, le match a lieu en 1747. Donc, Philidor, si je me trompe pas, tu me corrigeras, avait 21 ans à cette époque-là.
Ouais.
Tristamin, lui, a 42 ans. On imagine qu'il est né en 1705. Voilà, donc, Tristamin représente le vieux, en guillemets, le vieux joueur, et puis Philidor, le jeune en progression.
Ouais, bien sûr.
Et puis, alors, ce match est gagné par Philidor de manière très large. Par 8 à 2,
8 à 2.
et en plus, c'est pas deux défaites, c'est une défaite et un remis, parce que Philidor déjà donnait l'avantage à tous ses adversaires, le remis correspondait à une victoire pour l'adversaire.
Alors, tu peux nous rappeler ce que c'est que le remis, parce que le remis, aujourd'hui, ça s'utilise plus. Hein.
C'est le terme technique des échecs pour dire match nul.
Voilà, remis, c'est match
Nul.
nul. Ouais. Alors, je crois que remis, le fait de dire remis, je crois que c'est intéressant de le signaler. Alors, je ne suis pas sûr, mais presque sûr quand même. Ça vient du fait qu'à cette époque et avant aussi, on jouait pas aux échecs gratuitement. Enfin, le plus souvent, il y avait des paris. Et donc, je crois que quand il faisait nul, il remettait le pari à la partie suivante, en fait, tout simplement.
Ah, d'accord.
Donc c'était une remise de pari, et donc le nul ne décidait pas effectivement de qui allait empocher la cagnotte. Voilà, donc je crois que ça vient de là, et puis bon, maintenant on
Ça
dit.
c'est intéressant par rapport justement à la question du pack là. Ouais, on verra peut-être plus tard. Ouais, c'est intéressant. Ouais.
Oui, bah, le Pat a eu des histoires.
Parce que.
Par exemple, pour Rui Lopez, le Pat est une demi-victoire, c'est-à-dire que c'est pas une victoire pleine, mais c'est considéré comme une demi-victoire si on prend la moitié du pari adverse. Voilà. Donc,
Ce que je voulais dire, donc ouais, c'est ça, ouais. C'est
voilà.
une victoire, mais inférieure, ouais, d'accord, ouais.
C'était une victoire inférieure pour Rui Lopez. Alors après, pour Fildor, c'est différent. Et puis il expliquait que les règles en Angleterre étaient différentes aussi dans France à ce sujet-là. Je crois que le Pat était considéré comme gagnant en Angleterre, plus ou moins.
Justement.
Ouais. Donc alors, ce match 8 à 2, c'est quand même un score tout à fait important.
Oui, c'est tout à fait important comme score, en effet. Donc, Philidor était, en termes de strict de joueur, beaucoup plus fort que Stamar, c'est clair. Je pense que c'est assez évident, mais ce qui est intéressant dans Stamar, c'est justement dans son ouvrage, les innovations de son ouvrage par rapport aux ouvrages précédents aussi, peut-être.
Oui, d'accord. Ben ça, on en parlera si tu veux bien dans la deuxième partie, puisqu'on va commenter cet ouvrage, bien sûr, et tout ce qu'il contient, de façon à garder un peu de contenu. Alors,
Et puis
poursuivons.
peut-être encore par rapport au match, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a certains historiens,
Ouais.
par exemple le fameux Ludwig Bledow, dont je me suis inspiré pour la sélection des positions,
Oui.
et qui dit au début de l'étude dont je me suis inspiré, il dit, dans ma jeunesse, j'ai imaginé que ce match est peut-être fictif, donc il n'aurait peut-être même pas eu lieu. Ensuite, je me suis rallié à l'avis majoritaire. Parce que vu qu'on n'a pas eu parti, il y a certains qui ont dit, mais peut-être qu'il n'y a pas eu lieu. Puis c'est Philidor qui aurait peut-être inventé, parce que justement, ça m'a déconseillé comme quelqu'un de connu, quoi.
Oui, alors
Mais
ça c'est.
après, il s'est rallié à l'avis général, qui était quand même que le match a eu lieu, même si on n'a pas eu parti,
Ouais.
et que le résultat. Voilà. Donc,
Oui,
il y avait
alors.
cette idée à un moment donné que. Sur l'authenticité même du match, mais apparemment l'avis prédominant, c'est quand même le match qui a eu des parties entre les deux joueurs.
Oui, alors faut noter que d'ailleurs toute la période hein, avant le 19e siècle, hein, on n'a quasiment pas de partie de joueurs en fait. On n'a quasiment pas de partie officielle, de partie de match. Il n'y en a aucun. Même à l'époque de Ruy Lopez, le premier tournoi international qui a eu lieu en 1575, qui était pourtant à la cour du roi, donc a priori ils avaient les moyens hein, d'avoir quelqu'un qui note les parties. Et bien, on n'a pas les parties, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les parties.
D'ailleurs, quand on parlera de l'ouvrage de Stamma, on pourra parler de la notation, quelque chose d'important par rapport à Stamma, je pense.
Oui, bon, on va y venir, bien sûr, tout à fait. Alors, poursuivons sur l'histoire de Stama. Donc, il fait donc ce match là maintenant face à Fidor. Alors là, donc, il a écrit son livre déjà.
Alors, son livre, il date de 1737,
Ouais.
Donc les livres connus de Philidor au moment où ils jouent leur match.
Ouais, voilà, ça fait déjà 10 ans. Donc Philidor a 11 ans en fait quand il publie son livre en fait. Hein, voilà. Donc donc il fait ce match qui va sans doute signer un peu sa fin de carrière échiquéenne. Et puis au final, il va mourir pas longtemps après, puisqu'il meurt en 1755,
Non,
c'est ça?
donc il meurt, ça fait 47, ça fait 8 ans après en fait.
Oui, voilà, 8 ans après, d'accord. Donc apparemment, la défaite ne l'a pas aidé à tenir plus longtemps.
Non, bon, après.
Ouais. D'accord, donc 1755 pour Philippe Stama. Alors si tu veux bien, Pascal, on va faire une pause musicale. Et
D'accord.
puis dans la deuxième partie, on parlera plus en détail du livre de Stama pour parler justement de ses innovations, du contenu, de savoir ce que contient ce livre afin qu'on sache mieux disons, la nouveauté qu'il représente, parce que c'est effectivement un ouvrage historique important. Et il apporte de véritables nouveautés. Voilà. Donc tout de suite, une pause musicale sur Fréquence Diagonale et on se retrouve juste après.
Thank you.
Nous voici de retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec Pascal Gaulet en direct de Suisse. Hein, voilà, donc on aime bien nos amis suisses hein, ici sur Fréquence Diagonale. Donc pour la sortie de son livre historiquement très important sur Philippe Stamat. Alors dans la première partie de l'émission, Pascal, on a vu un peu l'histoire hein, de Stamat, l'histoire de sa vie de joueur d'échecs. Alors voyons, on ne peut pas voir tous les aspects de sa vie, mais sa vie de joueur d'échecs. Son livre qui paraît donc en 1737 sa défaite face à Philidor en 1747 voilà par 8-2 à Londres mais donc son livre qui sort. Alors en quoi ce livre donc on en a parlé un petit peu, maintenant on va détailler en quoi ce livre justement est un jalon important dans la littérature échiquienne.
Alors déjà il faut voir à partir d'où quoi il se situe. Donc à cette époque-là, ce qui existe, c'est le livre de Greco, Le Calabrais,
oui.
C'est le livre le plus connu, d'ailleurs Stamat en parle dans sa préface. Et puis le deuxième livre connu, c'est le Simon de Rumlopé de Seguera, donc l'école italienne à côté et l'école espagnole.
Oui.
Et puis, c'est les deux grands ouvrages dans lesquels s'inscrivent tous les autres à cette époque-là. Donc l'ouvrage de Stamat, c'est par rapport à ces deux ouvrages, en particulier par rapport à Greco, qui va s'opposer ou développer, je dirais. Voilà, c'est le point de départ.
Oui, alors en quoi il va s'opposer, il va se différencier du Greco?
Ce qui se différencie, c'est que Stamat va proposer directement des positions et non pas des parties entières, je dirais.
Oui, et Greco, c'était des parties inventées la plupart d'ailleurs, hein. C'était pas des parties jouées. Hein.
Il ne dit pas l'origine, il ne donne pas la liste des coups pour arriver à une certaine position, il part directement de la position avec l'idée qu'il y a quelque chose de remarquable dans ses positions.
Oui, d'accord. Donc il fait réfléchir. En fait, c'est le premier à faire des faits de fou la main, quoi.
À faire des
combinaisons. Alors, il y a un deuxième point très important qui apparaît, c'est je crois le premier livre hein, qui est comme ça. Donc je crois que c'est très 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 important. Alors c'est étonnant que ça n'ait pas été repris de façon plus générale au XVIIIe siècle, puisqu'il avait montré la voie en quelque sorte. C'est le premier à utiliser la notation algébrique.
Oui, alors ça c'est très important du point de vue aussi de l'histoire des mathématiques, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier qui imagine que l'échiquier, que chaque case de l'échiquier peut être désignée par un système d'axes, par des colonnes et des rangées, et chaque case désignée par le croisement d'une colonne et d'une rangée. Et chaque case comme ça désigne de manière univoque.
Oui.
Alors ça c'est très nouveau, très novateur, parce que dans les ouvrages anciens, même dans le Philidor qui va suivre, c'est pas du tout comme ça, on décrit de manière un peu narrative les coups en fait. Donc ça c'est très nouveau.
Oui, alors, effectivement, ça s'oppose à la notation descriptive, qui était le cas de tous les livres. Le Ruy Lopez est écrit originellement en descriptif, le Philidor aussi. C'est alors descriptif, c'est dire le cavalier du roi va sur la troisième case du fou de sa dame, par exemple. Voilà.
C'est ce que j'appelle narratif. Hein, mais voilà. Donc là, il va dire, par exemple, pour ce qui correspond à un autre coup, par exemple, cavalier C3, lui, il va dire BC3 ou, c'est là où la faiblesse de sa notation, parce que c'est encore quelque chose à mi-chemin, il va dire ou BC3 ou GC3. En effet, si le système des cases, des coordonnées cases, il avance ça, par contre, il a un problème par rapport à l'initiale de la pièce. Il ne va pas utiliser l'initiale de la pièce, il va utiliser l'initiale de la colonne sur laquelle se trouve la pièce au départ, c'est-à-dire si c'est un cavalier, ça peut être B ou G.
Oui, d'accord. Donc,
La faiblesse de ce système, c'est qu'évidemment, pour chaque notation, pour les pièces tour, cavalier et fou, vu qu'elles sont à double, et il pourrait avoir deux notations, en fait.
Oui, d'accord. Donc, il peut y avoir des ambiguïtés, parfois, qui sont difficiles à lever, quoi.
Donc c'est comme un système à mi-chemin, c'est ça qui est intéressant.
Oui, tout à fait.
Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est l'idée de désigner une case par le croisement d'une colonne et d'une rangée. C'est une grande innovation.
Oui, c'est une grande innovation. Et c'est une innovation qui, bon, non seulement ici concerne le jeu d'échecs, mais qui est à la base aussi de l'innovation en mathématiques, en géométrie, de repérer un plan par des axes, hein, et des coordonnées. Voilà, les fameuses coordonnées cartésiennes. Voilà.
Voilà.
Donc c'est quand même très important, puisqu'on voit ici ce développement de coordonnées cartésiennes dans le livre. Alors, il y a dans ce livre une préface de 1737 et je crois qu'il y a aussi une préface ultérieure, c'est ça? Il y en a une.
Disons, il y a une préface de 1737. Il y a une dédicace d'abord.
Oui.
C'était à la mode à l'époque de dédicacer l'ouvrage à son protecteur d'une certaine manière.
Oui,
alors là, c'est intéressant justement, c'est qu'il dédicace son ouvrage à son protecteur qui est son employeur, qui est le Lord Harrington, là,
ouais.
Pour lequel il est traducteur arabe-anglais.
Ouais.
Et puis ensuite, il y a une préface très intéressante où justement il va par exemple, critiquer le Calabrais, là, on verra comment peut-être. Et ensuite, il y a une explication de la notation algébrique, justement, où il explique son invention. Et puis ensuite, encore, il y a des règles générales, où il explique quelques règles générales sur le jeu d'échecs, la stratégie des échecs, comment bien jouer une partie. Et là, on pourra aussi faire un lien avec peut-être ce que dit Philidor après.
Oui.
Et puis ensuite, ce qui est intéressant, alors là, j'ai repris dans une édition postérieure de 1741.
Voilà.
J'ai repris une description poétique du jeu d'échecs que je trouvais intéressante, mais alors qui a été introduite pas forcément par Stama, mais par son éditeur.
Ouais.
On verra plus pourquoi il l'introduit. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi un pastiche d'un poème beaucoup plus ancien. C'est intéressant. Et ensuite, après tout ça, il y a alors les problèmes.
Voilà, et après donc on attaque les problèmes, ou alors là donc on a une centaine de pages avec des problèmes, et leurs solutions à la fin bien sûr aussi.
Donc, ce qui est intéressant des problèmes, c'est qu'il y a deux catégories, je dirais, mais ça, ils sont mélangés. Il y a des positions de type milieu de partie, très tactique, et puis il y a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sortes plutôt d'études de finale.
Oui.
Donc c'est moins tactique, avec certains coups stratégiques par exemple. Voilà, ça c'est intéressant aussi.
Voilà, donc il y a aussi, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de Stama, comme ça, qui ont traversé les siècles, comme ça, qui sont restés aujourd'hui des positions qu'on aime bien continuer d'enseigner, ou qui sont remarquables, que les joueurs connaissent bien?
Oui, il y en a certaines qu'on revoit souvent dans certains ouvrages actuels.
Oui.
Parce que c'est assez esthétique. Mais ça se pose un problème, de l'attribution de certaines positions. C'est pour ça que quand j'ai rédigé cet ouvrage, je me suis appuyé sur une étude scientifique postérieure réalisée par des Allemands, par Appliéal Berlinoise, on en parlera peut-être un petit peu, parce qu'il y a parfois des erreurs d'attribution, c'est-à-dire qu'on a attribué certains... Les positions ont varié dans les éditions, en fait.
Oui.
Donc j'ai essayé de trouver des bonnes positions attribuables réellement à Stama et pas à des inconnus postérieurs. Donc toutes les positions sont réellement inventées par Stama et ce sont les plus, en guillemets, les plus esthétiques, c'est-à-dire celles qui ont moins de réfutation, où la solution est unique et il n'y a pas de... Voilà.
Donc ça veut dire que dans l'ouvrage original, il y a plus de positions que ça?
Non, il n'y a pas plus de positions, mais les positions ont évolué.
Oui,
celle de 1737, ensuite celle de 1741.
Voilà.
Ils corrigent, si tu veux.
Ah oui, d'accord, il y a eu des corrections entre les deux.
Des éditions récentes, j'ai vu qu'il y a des positions que certains attribuent à Stama, mais en fait, ça a été rajouté, mais on ne peut pas les attribuer directement à Stama.
D'accord.
Mais parce qu'il y avait certaines... Parce qu'avec l'histoire, par exemple, du pas de gagnant, il y a certains qui ont enlevé certaines de ses positions et puis qui ont mis d'autres jolis problèmes, mais qui ne sont pas de Stama. Du point de vue historique, c'est quand même un certain... Alors, ça pose un certain problème. Donc, j'ai gardé toutes les positions. Elles sont toutes de la main de Stama. Alors, même celles qui sont réfutées, je dirais.
D'accord.
Des fois, j'explique la réfutation, mais voilà.
Alors, peut-être pour ouvrir un peu le champ historique... Pascal, est-ce que tu sais si ce livre a fait l'objet ensuite de, de beaucoup de rééditions, que ce soit au 18e, au 19e, voire même pourquoi pas au 20e siècle. Est-ce qu'il y a eu des
Alors,
rééditions?
oui, ce livre au 18e et 19e siècle a été considéré un peu comme un best-seller, parce que c'est un livre esthétique, joli, les positions sont jolies, c'est plaisant, c'est ludique à chercher. Et il y a eu beaucoup d'éditions dans plusieurs langues, en anglais, en français, en allemand, et ça fait trois langues principales. Et on en a, comme, il y a eu beaucoup d'échanges autour de ce livre, de recherches. Et d'évolution sur les positions qui ont été reprises sur mode par d'autres, des fois qu'ils ont attribuées dans leurs propres ouvrages, sans faire référence à Stama, pardon, des choses comme ça. Donc c'était un livre de problèmes très connu. Après, il y a une période d'éclipse là, à partir du début du XXe siècle, apparemment. Là, il commence à tomber. On en parle, mais on n'édite plus le livre.
Oui, d'accord. Après, c'est malheureusement pas réédité. Donc là, bon, c'est vraiment bien que tu aies pu rééditer ce magnifique livre. Alors, à noter qu'il y a une très très belle couverture aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette couverture? On voit qu'on a des orientaux qui sont dans un.
Oui, voilà. Alors, j'essaie de trouver une couverture qui illustre bien, à mon avis, le contenu du livre. Alors, j'ai cherché une peinture. J'ai pris une peinture de Ludwig Deutsch, c'est-à-dire ce qu'on appelait un orientaliste, parce que ça date du 19e siècle, ça, par contre,
ouais.
1896. Le mouvement orientaliste, c'est tout le mouvement de redécouverte de l'Orient par l'Occident au 19e siècle. Et il y a tout plein de peintres à cette époque qui font de magnifiques peintures.
Ouais.
J'en ai pris une où on voit des orientaux qui jouent aux échecs.
Ouais. Donc,
donc on avait, au 19e siècle, c'est intéressant parce qu'on avait une vision extrêmement positive de l'Orient, du Moyen-Orient, de la Syrie,
oui.
De tous ces pays. C'est intéressant de voir ça par rapport à l'époque présente où on a un avis plutôt assez négatif et fermé par rapport à certains pays.
Oui, bon, on va pas commenter l'actualité parce que sinon.
D'accord.
Bon, alors, donc c'est oui, magnifique couverture, effectivement. Donc, bah, je vous laisse la découvrir. Donc, effectivement, on en voit deux qui jouent aux échecs, un qui est dans l'arrière-boutique qui tient sans doute une théière qui. Voilà, il y a une théière qui attend, et voilà, donc c'est une très belle, effectivement, une très belle.
On voit derrière quelqu'un qui a l'air de préparer une sorte de café, quelqu'un qui... Donc on voit le côté aussi social du jeu.
Ouais, voilà, exactement. Donc on se retrouve encore dans une ambiance café. Hein,
voilà, c'est un peu ça, je vous
alors, café ou thé, hein, à voir. Hein,
thé, tout thé.
Voilà. Donc voilà, donc c'est ce livre de Stama. Alors comment on fait pour se le procurer, Pascal, ce livre?
Alors pour se procurer, c'est assez simple. Il se trouve, alors il possède un ISBN, c'est-à-dire qu'on peut le trouver sur n'importe quel site en ligne. Bon, il y a un célèbre site de vente en ligne sur lequel on trouve. On trouve aussi chez l'éditeur, qui a une boutique, qui est l'éditeur, c'est Bod.
Ouais, d'accord.
On trouve autrement une librairie aussi, mais sur commande, évidemment. On donne l'ISBN, puis normalement, les librairies peuvent faire venir le livre.
Oui.
Donc, ça, il n'y a pas de problème pour faire venir.
D'accord. Et est-ce qu'il a un site officiel? Est-ce que tu as fait un site internet pour décrire un peu cet ouvrage?
Non, j'ai pas fait de site particulier pour le décrire, par contre.
D'accord. Ça va peut-être venir, alors.
Je pourrais peut-être faire un site gratuit, ouais. Pourquoi pas, ouais. J'ai pas pensé, en fait.
Ouais. Alors, c'est toujours bien pour avoir des informations plus complètes. Voilà, donc c'est un très joli ouvrage. Donc 100, je vous ai dit 130 pages avec donc une centaine de problèmes combinaisons, avec aussi donc bien sûr une préface, une dédicace avec un intérêt historique certain, un jalon dans l'histoire du jeu d'échecs, ce Stama, qui est en lien direct évidemment avec Philidor puisqu'il a perdu ce match. En 1747 face à Philidor 8 à 2, ce qui a lancé la carrière de Philidor. Philidor n'aurait pas été ce qu'il est sans doute sans Stama. Voilà. Donc c'est bien important de lui rendre hommage aussi. C'est pas parce qu'on perd.
D'ailleurs, on l'a encore dit, mais on peut le dire que justement, Philidor, dans son célèbre ouvrage que tu as modernisé, qui est l'analyse du jeu d'échecs,
oui.
À un moment donné, donc ça contient des parties, à un moment donné, si je me souviens bien, il dit le gambit de la dame,
oui.
Dit aussi gambit d'Alep.
Voilà, exactement.
En parlant d'Alep, évidemment, il parle certainement de Stama, c'est un clin d'œil, puisque c'est Stama d'Alep.
Voilà, Stama vient de la ville d'Alep en Syrie, et effectivement, Philidor l'appelle gambit d'Alep. Et bon, malheureusement, il ne le cite pas. C'est peut-être un peu dommage, parce qu'il va citer.
Je pense que ça, à mon avis, c'est un clin d'œil, parce qu'autrement, on ne voit pas pourquoi elle aurait appelé ça Alep, c'est le seul joueur qui vient d'Alep, quoi.
Oui, bien sûr, je pense que oui, c'est clair. Bon, c'est dommage qu'il ne l'ait pas cité, parce qu'il il cite Bertin, il cite Cunningham, il cite Salvio aussi, qui est moins connu, hein, sans doute, un docteur italien. Il cite quelques joueurs quand même, Philidor, et malheureusement, il cite Pastama, mais bon, bien sûr, il fait référence à lui quand même, avec la ville d'Alep qui donne le. Donc le Gambit de la Dame, on peut l'appeler le Gambit d'Alep. Hein, donc maintenant, peut-être que je ferai attention à appeler ça le Gambit d'Alep quand je commenterai les
Ce qui
parties.
est intéressant justement, je ne sais pas si c'est de l'ironie, parce que Stama, dans sa préface, justement, c'est très intéressant, donc il se positionne par rapport à Greco, dit le Calabrais,
Oui.
et il critique justement, il dit le livre que j'ai fait est très différent, en gros, il dit le livre que j'ai fait, et que je vous présente là, est très différent du Calabrais, parce que le Calabrais introduit cette notion de Gambie, et je suis très sceptique, disons, par rapport à cette notion de Gambie. Parce qu'il dit c'est trop facile, le Calabrais, il fait systématiquement mal jouer en défense,
Oui.
mais si on joue bien en défense, on pourrait réfuter souvent ses gambits.
Ouais.
Donc, apparemment, il n'est pas très favorable à l'idée du gambit, des attaques directes. Il dit, c'est pas vraiment, ça semblait plutôt être un joueur positionnel. Donc, c'est assez amusant de dédicacer un gambit, même si c'est assez un pseudo-gambit, le gambit dame.
Oui.
Voilà.
C'est un paradoxe. Ouais.
C'est un peu un
D'accord.
paradoxe.
D'accord. Écoute, ben merci beaucoup Pascal hein, pour cette émission avec nous sur Fréquence Diagonale pour présenter ton livre donc Philippe Stamat, les 100, enfin deux parties Philippe Stamat donc hein, qui vient d'être réédité, voilà, que vous pouvez trouver sur Internet dans toutes les bonnes librairies et voilà avec 100, 100, 100 positions à étudier et donc là encore une fois un contact avec l'histoire du jeu d'échecs avec un très grand classique aussi. Et qui donc a un lien direct avec le grand, l'énorme Philidor. Voilà. Donc merci Pascal.
Merci à toi, Stéphane.
Merci de nous avoir suivis sur cette émission Fréquence Diagonale. Et puis donc je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Je vous laisse avec notre générique fétiche Broken Embraces. Au revoir.
Au revoir.